Fabien Lecture.
Bouillon de lecture, un bouillon d'été où on a choisi de vous lire un livre un peu en détail, par épisode. Nous avons choisi, ou plutôt j'ai choisi, L'Héritage de Cavanna. Pour moi, c'est un gros morceau de nostalgie. Ça raconte la France des années 30, en banlieue parisienne, du côté de Nogent-sur-Marne, dans le milieu des maçons italiens. François Cavanna, que vous connaissez certainement par ailleurs, est à moitié rital par son père et français par sa mère. C'est dans les années 70 qu'il raconte son enfance. Cavanna est avec le professeur Choron, le fondateur d'Arakiri et de Charlie Hebdo. Si je me souviens bien, les ritales sont d'abord parus en feuilleton dans l'un des deux journaux, je ne sais plus lequel. J'ai découvert ça dans les années 70, je trouvais ça drôle, assez cru, franchement décapant et d'un style qu'à l'époque je n'avais jamais lu ailleurs. Une sorte de langage parlé, par écrit. Cavanna le dit dans sa préface, je vous la lis. C'est un gosse qui parle, il a entre 6 et 16 ans, ça dépend des fois, pas moins de 6, pas plus de 16. Des fois il parle au présent, et des fois au passé. Des fois il commence au présent et il finit au passé, des fois l'inverse. C'est comme ça la mémoire, ça va, ça vient. Ça rend pas la chose compliquée à lire, pas du tout, mais j'ai pensé qu'il valait mieux vous le dire avant. C'est rien que du vrai, je veux dire qu'il n'y a rien inventé, ce gosse c'est moi quand j'étais gosse, avec mes sentiments exacts de ce temps-là. Enfin je crois. Disons que c'est le gosse de ce temps-là, revécu par ce qu'il est aujourd'hui, et qui ressent tellement fort l'instant qu'il revit, qu'il ne peut pas imaginer l'avoir vécu autrement. Voilà ce qu'on dit Cavanna. Ça donne un livre drôle, émouvant, tendre. Ça peut être un peu vieilli, mais en ce qui me concerne, je le retrouve avec plaisir. Dans cette première émission, donc, Catherine vous lit Les Maîtres, c'est le premier chapitre du livre, et Rue Sainte-Anne, une description du milieu dans lequel Cavanna vivait à l'époque. Cavanna était né en 1923. Je rappelle qu'il est mort en 2014 et qu'il n'aura donc pas connu la tuerie de ses compagnons, les Wolinski, Cabu et tous les autres qui sont morts ce jour de janvier 2015. Mais ça, c'est une autre histoire.
Les maîtres. Le dimanche matin, quand il fait beau et qu'il n'a pas de jardin de bourgeois, les bêchers ou de fosses à mer débordantes à aller déboucher, papa ouvre la fenêtre, celle sur la rue, et il répare des maîtres. Des maîtres en bois. Le maître de maçon est en bois, tout jaune. Le maître de menuisier aussi, mais il n'a pas de ressort. Le maître de maçon a des ressorts. Papa, en tout cas, appelle ça des ressorts. Au bout de ses branches pour qu'elles se tiennent bien droites quand on déplie le maître. Les menuisiers, je ne sais pas comment ils font. À cause des ressorts, les maîtres de maçon cassent souvent. Le bois est mince, les grosses pattes pleines de crevasses sont raides, le maître craque, casse. Le maçon jure « Porco Dio », traîne la Madonna dans la merde et engueule le garçon. Le garçon, c'est l'arpette. Quand quelque chose va de travers, c'est lui qu'on engueule. Il s'en fout, il est là pour ça. Il aime mieux ça que se faire chier à l'école. Il a une ogée de mortier sur l'épaule ou deux sacs de plâtre, dont un sur la tête pour l'équilibre, ou un cabas plein de litrons au bras, et il court, à plat ou sur une échelle. Un garçon maçon qui ne court pas, il se retrouve bientôt à chercher de l'embauche chez les bureaucrates. Papa est garçon, mais pas vraiment l'arpette. Il a plus l'âge. Les arpètes, il les engueule. Oui, plus fort que les compagnons même. Petit compagnon, ça s'appelle qu'il est. Ça veut dire qu'il se tape un boulot de compagnon et touche une paye de garçon. Un caractère en or, papa. Et puis, il sait pas lire. Un compagnon, faut que ça puisse lire le plan. Ecco. Tu comprende, Vigione? Papa comprend. Ah oui, Vigione, c'est le diminutif gentil de Luigi en dialetto. Comme tu dirais, petit Louis. Les bouts de maître cassés, il les ramasse sur les chantiers, à droite à gauche, tout content, en se chantant une petite chanson sans paroles et sans musique, plutôt un bourdonnement guilleret, comme on s'en chante pour soi tout seul quand on est content d'être au monde et qu'on veut pas déranger les gens pour si peu. Il les ramasse, il les met dans sa boîte à fourbis. Tous les maçons ont une boîte à fourbis. C'est une caisse assez grosse, lourde comme le diable, déjà quand elle est vide, avec un truc sur le devant pour le cadenas et des machins en fer sur les côtés pour passer la courroie quand on change de chantier. Elle est lourde parce qu'elle est faite avec des chutes de planches d'échafaudage, 4 cm d'épaisseur, ou avec des panneaux de portes d'écurie en chêne, tout ça assemblé aux clous à chevrons et renforcé au coin avec des ferrailles trapues qu'on dirait des bouts de rail, des fers à cheval, des équerres énormes, des morceaux de balcon en fonte, afin que ce soit bien solide. Fer solide, c'est la hantise du maçon. Comme il a en même temps horreur du tournevis et du ciseau à bois, outil de gonzesse et traître pareil, il y va à grand renfort de clous. Plus il y a de clous, et plus ils sont gros, et plus c'est solide. Rappelle-toi bien ce que je te dis, petit. J'ai vu une fois une boîte à fourbis qui avait 4 pattes, faite de 4 fers à repasser, coincés dessous par des clous recourbés, pour pas que le fond de la boîte touche la boue. Le gars était vachement fier. En plus qu'elle est lourde de naissance, la boîte, elle est lourde du fourbi qu'elle a dans le ventre. Surtout les outils personnels, tabous, sacrés, que personne n'a le droit de toucher. Ou alors, tu payes un litre. Quand tu l'ouvres, ça fait un nuage mélangé de poudre de bleu à lessive pour battre les lignes et d'ocre rouge pour faire la fausse brique. T'en as plein les mains, plein la gueule. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas touché. Paye ton litre, mon salaud. L'odeur de cette poudre ocre rouge, c'est quelque chose, tiens. Des boîtes à fourbis, papa, il en a plein. Sur chaque chantier en train, il y en a 2 ou 3. Plus une douzaine dans notre cave. Plus une dans la cuisine qui fait gueuler ma mère. Plus une dans le coin où il y a mon lit avec un cadenas terrifiant et cassé. Plus quelques autres dans les cabanes à outils des jardins qu'il bêche le dimanche pour se faire des sous que maman sait pas qu'il a. Enfin, qu'elle sait pas combien au juste. Plus quelques autres dans des coins tellement secrets qu'il les a oubliés lui-même. Au fait, si vous en avez marre, autant me le dire tout de suite, hein, parce que moi, quand je commence à raconter papa, on en a pour un bout de temps. Hein. Papa ouvre la fenêtre et répare des mètres. Pourquoi la fenêtre ? Parce que c'est le seul coin que maman lui permet. Elle n'a que le dimanche pour faire son ménage. La semaine, elle fait celui des autres, le matin, et leur lessive l'après-midi. Le dimanche matin, ça voltige et ça houspille chez nous. Papa prend l'appui de ciment de la fenêtre comme établi. Il étale dessus son petit fourbi. Le machin en fer où s'enfonce la tige de l'espagnolette lui tient lieu d'enclume. Et d'enclume bien commode, même, grâce au trou qu'il y a au milieu. Le trou lui sert à chasser les rivets des bouts de mètre cassés. Le tour du trou lui sert à river les clous qui servent de rivets au bout de mètre neuf. Avec un paquet de vieux mètres, papa en fait un neuf. Quand il est fait, il le regarde au soleil, content comme tout. Il y a juste le nombre de branches qu'il faut, 5 pour un mètre simple, 10 pour un double mètre, juste le nombre, pas une branche de plus ou de moins. Merde, c'est pas un con, papa, hein ? Je suis très fière de lui. Un jour, je demande à papa, « Papa, pourquoi ils suivent pas les numéros ?» Papa m'a regardé, il a craché un long jus de chic par la fenêtre du coin de la bouche. Pour ça aussi, je l'admire beaucoup. Et il a dit, « Ma, que numéros ?» Bah, les numéros sur le mètre, là, il y a 60 et juste après, il y a 25. Et juste après, 145. Mais qu'est-ce que t'as besoin des numéros ? Tu regardes combien il y a les branches et basta, va bene. 4 branches, ça veut dire 80. Ecco. Pour les petits centimètres, tout petites qui sont en plus, tout compte avec les doigts, à peu près quoi, voyons, faut pas perdre le temps à des conneries. Qu'est le plâtre, lui ? Tu sais, le plâtre, il attend pas, lui. Je pense que papa, ce jour-là, a flairé que son piston, il a jamais bien discerné à l'oreille la différence entre piston et fiston, hein, avait déjà un pied chez les bureaucrates. Quand papa en a bien marre de se faire traiter de feignant et de rital par sa panthère, il descend dans la rue faire un tour. Maman pourrait continuer à lui gueuler dessus par la fenêtre, mais elle a son camp à soi, elle est française, elle ne vit pas à ciel ouvert sur la place publique, elle a bien trop de fierté pour ça. Elle se contente de ronchonner à la cantonade, à grosse rocailleuse voix morvandelle, en secouant sa literie avec haine, et tous les feignants du monde en prennent un sacré coup. Je nomme personne. Et tous ces mielleux, tous ces pouilleux qui viennent manger le pain des Français sans avoir le courage de vous dire merde en face, race d'hypocrite. Ah là là, à bon entendeur, salut. Maman, mais quelle bourrasque! Moi aussi je file dans la rue, sans quoi je suis bon pour encaustiquer le parquet, faire briller les pieds de la table, moulure par moulure. En ont-ils des chichis, les saloperies? Une patronne qui lui a fait cadeau pour se meubler moderne. On fait monter les eaux en neige, en avoir des crampes dans le bras. L'escalier dégringolé 4 à 4, 3 étages d'odeur entrelardés de vieilles pisses et de raviolis, les chiottes sont à mi-étage, sans égout et toujours bouchées. Heureusement, entre chaque passe sous les portes des effluves des raviolis du dimanche. Ça te requinque jusqu'à l'horreur suivante. La rue, c'est la rue Sainte-Anne, à Nogent-sur-Marne, banlieue Est, à 6 km de la Nation, entre le bois de Vincennes et le Perreux. La rue Sainte-Anne. Oh là là, c'est un gros morceau ça. Laissez-moi souffler un peu.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse: qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così, wow wow. Passano gli anni ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento. Là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba. E no, andiamo avanti così, chissà come si farà. Chissà.
Dans le deuxième extrait que va vous lire Catherine, Cavanna décrit la rue où il habitait, la rue Sainte-Anne, à Nogent-sur-Marne. C'était le quartier Rital, son quartier, celui où il a vécu. Il y décrit les lieux, les gens, les habitudes, avec une certaine tendresse, mais aussi un certain regard, le regard de l'adulte qu'il deviendra.
Rue Sainte-Anne. Quand t'arrives par la grande rue, tu dirais une impasse. T'aperçois là-bas au fond une grille sur un muret, une grille rongée, rouillée, avec en plein milieu un gros pilastre et un bec de gaz posé dessus. Derrière la grille, une vague verdure, et derrière la verdure, une maison de deux étages qui barre toute la rue. Eh bon, tu t'en vas, c'est une impasse, quoi, pas la peine d'insister. Eh ouais, faut connaître. T'aurais remonté la rue jusqu'au fond, jusqu'à la grille. Arrivé là, t'aurais vu, sur le côté à droite, que la rue continue. Seulement ça, faut avoir le nez dessus pour le voir. Elle continue, mais devenue d'un seul coup toute rétrécie, rabougrie. Elle était déjà pas bien large avant, juste un boyau, mais là, t'étends un peu les bras à droite et à gauche, et tu touches les deux murs. Et comme elle part complètement sur le côté à l'équerre, juste devant la porte à Jean-Jean, et qu'aussitôt elle refait un autre coude à l'équerre en sens inverse, juste devant la porte aux Pélicias, si tu connais pas, rien à faire, hein, tu peux pas deviner. Et si tu devines, t'oses pas y aller. Tu te sens salement étranger. Et tous les mômes qui te tournent autour, qui commencent à te chercher, pourtant en passer les deux coudes, c'est encore une vraie rue qui file tout droit vers la lumière, tout là-bas, tout au bout, la lumière de la rue des Jardins, où y passe même l'autobus depuis qu'ils ont mis la grande rue en sens unique. Une vraie rue avec des vrais trottoirs et des caniveaux, sauf qu'elle a 1,20 m de large de mur à mur, et que les trottoirs, c'est juste un pavé. Les caniveaux, il y a tout le temps des nouilles dedans. Des nouilles blanches, molles, tristes. Des nouilles françaises. Les nouilles italiennes, c'est rose, c'est joli à cause de la tomate. D'abord, t'as déjà vu des Rital jeter la pasta au caniveau, toi? Cette partie-là, la partie toute étroite, elle est noire. C'est parce que les murs sont noirs. Un couloir noir, mais sans plafond. On voit le ciel là-haut, très loin. Pourtant, les maisons sont plutôt basses, mais c'est la rue qui est si étroite. À droite, en montant, il y a la porte du bistrot à Madame Pélicia. Une petite porte avec une petite fenêtre que tu ne devinerais jamais que c'est un bistrot s'il n'y avait pas écrit sur la vitre « Au petit Cavanna ». Parce qu'avant, c'était le bistrot à grand-mère. La grand-mère Cavanna, la mère du grand Dominique, le patron. Ça s'appelait « Au petit Cavanna » pour pas que les gens confondent avec l'autre Cavanna, le grand beau restaurant juste en face du commissariat qui en a qui viennent de loin et même de Paris des fois, par l'autobus pour y faire la noce tellement que la cuisine est bonne. Le dimanche après-midi, les Rital y mettent la chemise blanche avec les manches proprement roulées au-dessus du coude et ils viennent au petit Cavanna respirer la bonne odeur du pernaut et de la pisse de chat en buvant du 11 degrés. Ils discutent dans la fumée, ça fait un boucan terrible. Les Rital, ils ont des voix très graves et très sonores. Ils s'engueulent pour des histoires de haies mitoyennes, là-bas au pays, ou bien ils jouent à des jeux de cartes inconnus avec des cartes aux dessins fascinants, rouges, verts, jaunes, des couleurs de cuisine italienne, tomates, poivrons, safran. Je suis sûre qu'elles sentent le parmesan, les cartes. Qu'elles me paraissent fades et froides, les tristes cartes de la belote française. Les cartes italiennes, ça s'abat sur la table à grands coups de poing, en hurlant à voix sauvage des choses que je comprends pas, des choses de meurtre et de malédiction. Et quand ils jouent à la morra, à l'amour, comme on dit en dialetto, là, oui, ça fait du bruit. Ils jettent les doigts en avant à toute volée. Tu te demandes comment le bras s'arrache pas de l'épaule pour aller se planter dans le ventre du gars en face. Ils étincellent de tous leurs yeux, de tous leurs crocs. Ils rugissent de leur gosier énorme. Cinque, due, quattro. Le plafond sursaute, les vitres tremblent, elles tremblent pour de bon. Quand nous autres mômes, on passe dans la rue, ça nous vibre dans la tête. Les murs font écho, toute la rue résonne comme un gros mirliton. Et quand ils chantent, à pleine gorge, tous bien ensemble, les yeux dans les yeux pour que ce soit très juste, très réussi, la bouche ouverte à deux battants pour que s'y épanouissent à l'aise les amples « Ah, italiens !» se donnant des coups de coude de bonheur tellement ils sont contents que ce soit si beau. Ils lancent à trois voix leur cœur formidable. Et les vitres folles dansent tellement. Les murs mirlitons, mirlitonnent si fort que jusqu'à la rue des Jardins et jusqu'à la Grand-Rue et jusqu'au fond des cours secrètes, les fenêtres s'ouvrent. Les femmes en pèlerine noire s'accoudent et écoutent. Les femmes des maris convenables qui ne vont pas bêtement dépenser les sous du ménage au bistrot sourient du coin de la bouche, bien droite, méprisante. Celles qui savent le leur en train de brailler avec les autres écument de rage et de honte, mais sauvent la face, marmonnent l'œil dur. « Aspetta un po' quando tornerai !» Nous, on bouche la rue, collés en tas à la porte du bistrot, guettant quand un gars sort pisser dans le ruisseau pour tâcher d'apercevoir quelle gueule ont nos pères quand ils sont heureux, comme nous ne les voyons jamais heureux ailleurs. Papa chante plus fort que tout le monde, mais mon cousin Silvio a la plus belle voix. La rue Sainte-Anne et le quartier tout autour, c'est le vieux Nogent. Les Français ont abandonné ces ruelles tortillées, ces enfilades de cours et de couloirs et ces caves grouillantes de rats d'égout au Rital. À part quelques artisans comme M. Moreau, le bourrelier en face de chez nous, ou le tonnelier du haut de la rue, les quelques familles françaises qui se cramponnent, noyées dans les Ritals, sont des gens très pauvres. Ou alors des soulards à moitié clodos qui vivent des assurances et se foutent sur la gueule le samedi soir devant toute la rue en hurlant à la volée des choses épouvantables, des choses qui traversent portes et fenêtres pourtant bouclées à grand fracas par les mères blêmes d'horreur et font ricaner les mômes sous cap. Les ritales de la maison au chantier et du chantier au bistrot ne fréquentent que des ritales. Alors, ils croient que tous les Français sont comme cela, sales, feignants, obsédés, soulards, vas de la gueule et communistes, et leurs femmes toutes putains et vérolées. La plupart interdisent à leurs mômes de jouer avec des mômes français. Déjà moi, à moitié français par ma mère, je suis suspect. Hein. Les petits ritals disent « vous » à leurs parents. Les parents disent « vous » à la nonna, la grand-mère. Il y a toujours une nonna, entortillée de chiffon noir, égreneuse de chapelet, tapie dans le coin de la cuisinière, qui entretient le feu, tient chaude la minestra et surgit à la fenêtre pour appeler les gosses à l'heure de la soupe. Les ritals, ça s'engueule pas, ça se bat pas. En tout cas, tu vois rien de l'extérieur. Les Français disent que c'est des hypocrites. Le père fronce le sourcil, les mômes filent, font ce qu'ils ont à faire sans un mot. Le père cogne rarement. Il faut que ce soit très grave. Un crime. Avoir répondu non à la mère, par exemple. Alors, il déboucle sa ceinture de cuir, deux coups, pas plus, mais sec sur les mollets. Et si c'est encore plus grave, il frappe avec le côté de la boucle en fer. Le père ne crie pas. Il engueule le môme à voix contenue, entre ses dents. Ses yeux sont terribles. Le môme serre les mâchoires, crève de rage rentrée, pleure en dedans, ne dit rien. Ne jamais perdre la face, surtout devant les Français. Maman est éperdue d'admiration et d'envie. Elle voudrait que papa soit comme ça, un chef, un dieu. Papa ne m'a jamais battue. C'est pas un dieu, papa. J'ai pas peur de lui. Si je fais le con, il est triste. Il me dit « Pourquoi t'as fait galer ta mère ?» Je fais le con pas plus qu'un autre, plutôt même moins. Mais maman est difficile à contenter. Les soirs d'été, les hommes descendent dans la rue avec des chaises. Ils s'assoient à l'envers, le dossier devant, leurs bras posés dessus. Ils sont blancs de plâtre ou gris de ciment. Ils ne se changent pas en quittant le chantier. Ils se lavent le dimanche matin dans une bassine. La femme leur frotte le dos. La grande sœur monte la garde devant la porte de la cuisine pour que les petits ne risquent pas de voir le père à poil. Les gosses jouent dans le crépuscule qui n'en finit pas. Ils font des rondes. Les soirs d'été sont voués aux rondes, c'est comme ça. Cherchez pas à comprendre. De même que l'hiver est la saison des billes et le printemps celle de la chaînette qu'on fait dans une bobine avec quatre clous, Toutes les rondes, on les connaît. Rue Sainte-Anne, toutes. Enfilons les aiguilles de bois. Où est la Marguerite? Qu'est-ce qui passe ici si tard? Passe, passe, Nicolas. Ah, mon beau château. La tour prend garde, le petit bossu. Toutes les rondes françaises. Ah, pas une italienne. Hein. Forcé, où s'apprennent les rondes? Bah, à la maternelle. Tous les petits ritals vont à la maternelle pendant que les mères font des ménages. Ils passent de la berceuse italienne à la ronde française. Fiaf, coupure. Petit rital, vous serez des Français moyens. Pour vos gosses, l'Italie ne sera qu'un pays sur la carte, comme la Belgique ou la Pologne. Juste un peu plus chouette pour passer les vacances. Petit rital, faites comme moi. Barbouillez-vous de nostalgie. C'est un plaisir délicat que seuls peuvent s'offrir les déracinés. Mais rien qu'un doigt, petit rital. La nostalgie, c'est comme tout. T'en prends, t'en laisses. Tu prends le bon, tu laisses le reste. Les soirs d'été, les hommes assourdissent leur voix et ça fait dans la nuit bleue un doux couac-couac d'étang à grenouilles. Ils se roulent à la main des cigarettes de maçon, grosses comme des manches de pioche, et toutes bourrelées de varices, avec le tabac qui sort comme le crin d'un vieux matelas. Papa aime mieux la chic. Il s'enfonce 5 cm de gros boudin noir dans la bouche. De la carotte, ça s'appelle. Je lui achète chaque jour de l'an pour ses étrennes 10 ronds de carottes au bureau de tabac. J'ai honte de demander ça. Le bureau de tabac se fend la gueule. Il coupe d'un bon coup de dent tout ce qui ne veut pas rentrer. Il le range soigneusement dans sa poche de veste où il y a déjà les os de son dernier dîner mis de côté pour le chien perdu qu'il ne va pas manquer de rencontrer ce soir ou demain, les clés des cadenas de ses boîtes à fourbis, des vis, des boulons, des rondelles, des ressorts de maître, des clous encore tout bons. Il y a juste qu'à les redresser, des carrés de journal bien découpés, bien carrés pour aller au cabinet, des bouts de ficelle, des élastiques, des tas de trucs formidables. Les poches de sa veste pendent de chaque côté comme des musettes. En plus, il enfonce ses poings dedans quand il marche, bras tendus. Faut le voir marcher, hein. Ça tire sur la veste. Faut que ça se prête ou que ça craque. Les poches du pantalon sont bourrées aussi. Mais ça se voit moins parce que c'est un pantalon large, genre zouave. Bleu l'été, velours côtelé marron l'hiver, serré aux chevilles sur les grosses godasses croûteuses racornies par le ciment. Il est petit, papa, tout petit. Mais qu'est-ce qu'il est costaud! Il est trapu et gras du bide, ça lui va très bien. Vous verriez ses yeux, bleus comme ses fleurs bleues. Vous savez, quand elles se mettent à être vraiment bleues. Ses cheveux sont blancs et fins comme les fils de ces plantes qui poussent dans les haies. Je sais pas comment ça s'appelle, ils ont toujours été blancs. Quand il était gosse au pays, les autres l'appelaient « il bianco ». Maintenant, ils l'appellent « Vigion grosso » ou « gros Louis », prononcé « Louis ». Ils ne savent plus très bien s'ils parlent dialecte ou français. Ils sont à cheval sur les deux. Ils rient tout le temps, papa. Ils s'arrêtent pile en pleine rue pour rire aux conneries qu'ils racontent. Ils se plantent sur ses deux cuisses, les poings enfoncés à bout de bras dans ses poches de veste. Ils renversent la tête en arrière et ils lancent à pleine mâchoire son rire au ciel. Les gens s'arrêtent et rient aussi. Pas moyen de s'empêcher, c'est quelque chose, hein. Il en pleure, il tire son mouchoir de dessous les os, les clés, les boulons, les ficelles, un mouchoir violet à carreaux, grand comme un drap. Il le roule en gros tampons, il se frotte les yeux à s'arracher les paupières, puis il se l'étale à plat sur la figure. Il s'empoigne le nez à travers le mouchoir, il se mouche, pouette, les oiseaux se sauvent, c'est la panique. Il se frotte le nez avec le mouchoir en boule, ça va mieux, le voilà reparti. Et redéconnant, 20 mètres plus loin, ça recommence. Quand papa me raconte ses histoires, des fois, le soir, dans notre cuisine, je me marre. J'attrape le hoquet. Je ne sais pas si c'est l'histoire, si c'est le mélange dialetto-français, si c'est l'accent ou si c'est de voir papa rire. Il a du mal à arriver au bout tellement il rigole. Et moi avec. Maman lui dit « T'as pas honte de raconter des bêtises pareilles devant le petit ?» Maman, elle n'a pas la bouche qui se plie dans le sens de la rigolade. Ils sont tous comme ça dans sa Nièvre, hâve et sombre. C'est à cause de la vie qu'elle est tellement dure par là-bas. Pourtant, en Italie, dans le coin d'où ils viennent tous, c'est encore plus dur. Rien que du caillou. Si t'as de la terre, tu te crèves et tu crèves de faim. Si t'en as pas, tu t'en vas en France, nu-pieds, servir les maçons. N'empêche, il goûte la vie, les Rital.
Quoi que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit quand plus rien ne fait mal et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve.
Voilà un premier aperçu du livre Les Rital de François Cavanna, un livre de 1978 édité chez Belfond, et à la semaine prochaine pour la suite.